Merci beaucoup. Alors on va continuer avec un petit temps de méditation sur un texte. Et en fait, c'est un texte qu'on aime beaucoup utiliser pour présenter un petit peu la mission du GBU. À la rentrée, quand des nouveaux étudiants arrivent et rejoignent le groupe, on étudie ce texte-là. Et c'est le texte où c'est dans Luc 5, versets 1 à 11. Et on va le lire tantôt. C'est le moment où Jésus appelle Simon-Pierre au bord du lac ou de la mer de Galilée. Simon, c'était un pêcheur de poissons. Et Jésus va lui dire, je veux que tu deviennes un pêcheur d'hommes. Il va utiliser les compétences, il va utiliser les capacités, il va utiliser les dons de Simon, mais il va changer la perspective. Et on croit vraiment que c'est l'appel que Dieu adresse aux étudiants ou le défi qu'on veut leur lancer. Tu n'es pas juste un étudiant, tu n'es pas juste un pêcheur de diplôme, mais ton campus, c'est ton champ de mission. Pour le temps où tu es aux études, Dieu t'appelle à refléter Christ sur ton campus. Tu continues d'être étudiant, tu travailles, tu vas passer tes examens, mais en même temps, la perspective est différente. Et comme le priait notre sœur tantôt, si les étudiants comprennent cette réalité-là, ils vont continuer à le vivre dans la suite de leur carrière, dans la suite de leur vie, dans la suite de leur service dans leur église locale. Et ça se peut que certains des étudiants aujourd'hui deviennent plus tard des gens qui peuvent avoir une influence très importante. Et donc, on croit et on investit notre vie pour ça. On croit que c'est stratégique de lancer ce défi aux étudiants et puis de les accompagner pour qu'ils puissent le relever ou qu'on puisse le relever ensemble. Et à quelque part, si on y réfléchit, c'est aussi notre défi à tous, chacun d'entre nous. Comment est-ce que je peux refléter Christ dans mon travail, parmi mes amis, ma famille, mes voisins? Et donc ce matin, on va voir comment ça se passe pour Simon-Pierre. Ça va être une prédication peut-être un petit peu différente. L'idée, c'est que je vais vous raconter l'histoire comme si j'étais dans les chaussures de Simon, ou disons dans les sandales de Simon. L'histoire est évidemment basée sur le texte biblique, et comme j'ai dit, on l'a étudié plusieurs fois avec les étudiants, donc toutes les bonnes idées viennent des étudiants. Ça va bien. C'est aussi basé sur les informations historiques que j'ai trouvées, comment est-ce que se passait la vie des pêcheurs à l'époque, etc. Et c'est aussi basé sur mon imagination. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est, je prétends pas que les choses se sont passées comme ça. Je me dis juste, ça aurait peut-être pu ressembler à ça. Et c'est peut-être important aussi de se rappeler que c'est une prédication. Donc, écoutez pas juste Joël raconter une jolie petite histoire ou bien un conte pour endormir les enfants le soir. C'est une prédication. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut me rappeler sur lui-même? Où est-ce qu'il me reprend dans ma propre vie? Où est-ce qu'il me défie? Où est-ce qu'il m'encourage? Où est-ce qu'il veut m'amener plus loin? Donc, je vous invite vraiment à avoir cette attitude-là, d'être ouvert à l'œuvre de Dieu dans nos vies, au travers de sa parole. Alors, je vais inviter Florence à me rejoindre pour lire le texte. Donc, je vais juste dire un mot de prière, puis ensuite Florence va lire le texte, et ensuite je vous laisse découvrir ou redécouvrir le récit de la pêche miraculeuse. Seigneur, on te bénit pour ta parole, on te bénit pour cette réalité que tu es un Dieu qui veut te révéler à nous, tu veux te faire connaître à nous. Seigneur, tu veux aussi transformer nos vies. Et tu veux nous envoyer. Et Seigneur, ce matin, on veut dire oui et amen à cela. Et on veut se laisser inspirer par l'exemple de Simon, de Pierre. Amen.
Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent.
Wow! Quelle journée! Quelle journée! Tout avait tellement mal commencé. Mais là, on pourrait enfin tenir quelque chose, ou plutôt quelqu'un, ce Jésus. En fait, j'en suis sûr, c'est lui, le libérateur, le Messie qui va délivrer Israël. Bon, je m'emporte. Et vous me direz, c'est toujours la même chose avec toi, Simon. Beaucoup d'enthousiasme, et puis, après quelques mois, plus rien. Je le sais bien, et ça m'a joué assez de tours par le passé, croyez-moi. Mais cette fois-ci, celui-là, il est différent. Vu ce qui s'est passé ces derniers jours, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai l'impression que rien ne va pouvoir l'arrêter, que sa renommée va grandir et que bientôt toute la Galilée sera au courant de ses enseignements et de ses actes miraculeux. Et ensuite, qui sait, si le petit peuple galiléen se réveille, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous conduire. Jusqu'à Jérusalem, peut-être. Bon, je m'emporte, une fois encore. Peut-être que le plus simple, c'est que vous puissiez vous faire votre opinion par vous-même. Alors, je vais vous raconter la journée depuis le début. Les gars de Zébédée et moi, on avait travaillé toute la nuit. Et c'est vrai que d'habitude, on s'en sort plutôt bien, nous autres, les pêcheurs de la mer de Galilée. Si nos prises sont bonnes, et surtout si nos compétiteurs ont une mauvaise nuit de travail, on peut faire de l'argent. Les ventes directes sur la plage au matin, mais surtout le poisson séché, salé, qui se conserve bien même jusqu'à l'hiver, et encore plus la marinade. Si on trouve un navire marchand qui va l'exporter, on peut vraiment la vendre à un bon prix. Ce que les gens ne réalisent pas forcément, par contre, c'est que le prix des bateaux et de l'équipement, c'est vraiment cher. Tous les pêcheurs que je connais sont dans les dettes. Et dès qu'on gagne un petit peu d'argent, on essaye de rembourser une partie du prix du bateau. Un filet qui se déchire, ça peut vous conduire à la catastrophe. Comment rembourser le prix du bateau si tu n'as pas un filet pour attraper du poisson? C'est pour ça qu'on passe autant de temps à nettoyer puis à réparer nos filets. Et puis il y a les tempêtes. Des coups de tabac qui nous tombent dessus en un instant que rien ne laisse prévoir. Des nuages qui s'amoncellent d'un coup vers le défilé d'Arbel et vous vous retrouvez pris avec des vagues qui peuvent retourner le bateau. Un vent tourbillonnant qui rend la manœuvre impossible, en général, évidemment, au milieu de la nuit. Dans ces cas-là, vous risquez de perdre vos filets, votre bateau et même votre vie. Il y a pas mal de fois où j'ai cru que j'y passais. C'est pour ça que nous, qui naviguons dessus à l'année longue, nous l'appelons la mer de Galilée. Nous savons que ces tempêtes n'ont rien à enlever, à envier à celle de la grande mer. Même si, par une matinée tranquille comme aujourd'hui, on peut comprendre les étrangers et les touristes qui parlent du lac de Galilée. Bref, ne croyez pas que pécher, c'est juste la belle vie de riche. Beaucoup de pression, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de dangers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de s'associer, de se mettre ensemble. On peut s'entraider dans les coups durs, on partage les gains. Mais surtout, on peut pêcher à la drague, avec deux bateaux, et espérer des meilleures prises. La famille de Zébédée et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ah, le vieux Zébédée, il connaît la mer et son poisson comme personne. Mieux que moi-même, même si moi j'ai grandi sur le bateau de mon père. Et puis ses deux fils, Jacques et Jean, commencent à être des sacrés bons marins. N'empêche, la nuit passée, on a travaillé comme des fous et on n'a rien pris. Rien. Comme si le poisson nous voyait venir et foutait le camp. On connaît notre métier pourtant, on sait comment s'y prendre, surtout avec l'expérience d'un gars comme Zébédée. Autant vous dire que l'ambiance ce matin, c'était pas la fête. Les autres vendaient leurs prises de la nuit, ils vidaient les poissons pour les saler et les mettre au séchoir, ils préparaient le feu pour la marinade, on pouvait entendre les pièces qui tombaient dans leur tiroir-caisse. Tandis que nous, on avait travaillé autant fort qu'eux, voire plus, et on n'avait rien. Juste des filets dégueulasses, pleins de coquillages, coupants, qui risquent de les déchirer, puis qui sont super difficiles à nettoyer. On était épuisés, frustrés, en souci. Tout ça n'allait pas nous aider à finir de rembourser le bateau déjà vieillissant. Et puis, il faut aussi nourrir nos familles. Bref, encore quelques nuits comme ça, et c'est la fin de la pêcherie Simon, Zébédée et fils. Et c'est à ce moment-là que Jésus est arrivé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces rabbis arrivent toujours au plus mauvais moment. Lorsque vous en avez déjà plein les bras avec la vraie vie et ses soucis, ils se pointent, ils vous font leur théorie religieuse, ils vous demandent de l'aide pour ceci ou pour cela, comme si vous n'en aviez pas déjà assez. Et là, ça n'a pas manqué. Jésus voulait nous emprunter notre barque pour s'éloigner un petit peu du rivage et puis pouvoir avoir une meilleure acoustique pour enseigner les foules. Bien sûr, ça ne nous arrangeait pas trop, son histoire. Nous, on voulait juste nettoyer nos filets, aller prendre un peu de repos avant la nuit prochaine. Et puis, on sait qu'on a besoin de faire une meilleure prise si on ne veut pas se retrouver vraiment dans le trouble. Bon, l'autre chose qui compliquait un petit peu la situation et que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jésus est venu chez moi, un samedi, le mois dernier, en sortant de la synagogue. C'était un peu le chaos à la maison, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. On leur a offert ce qu'on a pu, du pain, quelques poignées d'olives, du poisson séché, les morceaux brisés, ce qu'on n'arrive pas à vendre au marché. Mais surtout Anne, ma belle-mère, celle qui nous aide avec les tâches ménagères, elle était malade. En fait, elle était vraiment malade. Ça faisait plusieurs jours qu'elle toussait, qu'elle avait la fièvre, ça allait en s'empirant. Elle a même dû rester 2 jours au lit, ce qui lui était probablement jamais arrivé de sa vie. Franchement, on était pas mal inquiets pour elle. Et Jésus, le rabbi, qui débarque à la maison, accompagné de la moitié de Capernaum, justement ce jour-là. Qu'est-ce que je vous disais sur ces rabbis qui viennent vous ajouter du trouble comme si on n'en avait pas déjà assez comme ça? Sauf que cette fois-là, ça s'est passé différemment. Il faut rendre justice à Jésus. Quelqu'un, d'ailleurs je crois que c'était Jean, le cadet de Zébédée, il lui a parlé de la maladie d'Anne, puis de notre situation, puis honnêtement, on pouvait bien voir qu'on n'en menait pas large ce jour-là. Bref, Jésus est allé voir Anne, dans son lit, derrière le rideau. On n'a pas vu ce qu'il faisait, bien sûr, mais on l'a entendu crier après la fièvre. Honnêtement, ça ressemblait un petit peu à ces magiciens ambulants qui vous réclament un denier pour régler n'importe quel problème. Et vous laisse avec une incantation ou bien une poignée d'herbe à faire bouillir dans l'eau et boire, et qui se dépêche de disparaître avant que vous réalisiez que vous avez perdu un denier. Mais là, c'était différent. D'abord parce que Jésus ne nous a pas demandé un denier, et ensuite et surtout parce que Anne a été instantanément guérie. Elle s'est levée de son lit d'un coup, pleine de santé. Elle a tout de suite commencé à prendre les choses en main, puis organiser le chaos qu'il y avait à la maison, comme si elle devait rattraper les 2 jours qu'elle a passés au lit. Elle est en pleine forme depuis ce jour-là. quand j'y pense, quelle histoire extraordinaire. Enfin, voilà, vous comprenez pourquoi je n'avais pas vraiment d'autre choix que de mettre ma barque à disposition de Jésus. Et j'espérais, on peut toujours espérer, que son enseignement ne durerait pas trop longtemps, juste le temps qu'on puisse finir de nettoyer nos filets. Et puis enfin, on pourrait aller se coucher. Bref, on a pris Jésus dans le bateau, on s'est éloigné un petit peu du rivage, il s'est assis et puis il a commencé son enseignement. J'étais quand même un petit peu gêné de commencer tout de suite à travailler sur mes filets, alors je l'ai écouté poliment, au moins au début. Et il a commencé avec toute une série de bénédictions. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté envers eux. Heureux ceux qui procurent la paix. Pardon, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Moi, je ne suis qu'un simple pécheur, je ne suis pas un spécialiste de la religion, mais il m'a semblé que ce rabbi avait un enseignement vraiment bizarre. En gros, il semblait dire que les malheureux sont heureux, que les petits sont grands, et que les maudits sont bénis. Et son idée, que ceux qui ont le cœur pur peuvent voir Dieu. Si Moïse n'a pas pu voir Dieu, comment serait-il possible pour un être humain normal de voir Dieu, ou même d'être appelé fils de Dieu, comme il semble expliquer. Et il a continué. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Là, par contre, je savais de quoi il parlait. Je me souviens encore, comme si c'était hier, même si, ça doit faire plus de 10 ans maintenant, je me souviens du jour où un marchand ambulant est venu me proposer une cargaison de sel à la moitié du prix habituel. L'échantillon qu'il m'a fait tester était parfait, je lui ai payé ce qu'il me demandait, il a déchargé ses deux sacs et il est parti très vite. Les poissons que j'ai salés avec son sel, il faudrait mieux dire cette cochonnerie blanche que j'avais prise pour du sel, ont pourri au lieu de sécher. Une cargaison entière de foutu, sans compter l'argent du sel. Bref, méfiez-vous des prix qui sont trop beaux pour être vrais. Puis ensuite, je me suis remis à travailler sur mes filets. Et je n'ai pas beaucoup écouté ce que disait Jésus. Il avait l'air de parler de ses trucs religieux, d'être assez fâché avec les spécialistes de la loi, les pharisiens. Moi, j'ai continué à nettoyer mes filets du mieux possible. C'est plus facile quand on est sur la rive que sur le bateau, mais bon, il fallait bien accommoder Jésus. Et puis j'ai réfléchi. La réalité, c'est que nous sommes vraiment mal pris. Ces derniers temps, les prises ne sont pas formidables. La nuit dernière, c'était juste la pire de toutes. Le problème, c'est qu'on arrive à peine à nourrir nos familles, mais on n'avance pas avec le remboursement du bateau. Il vieillit. Il commence à craquer de plus en plus quand on le met à l'eau, c'est pas bon signe. Et puis, comment dire, il n'y a pas que le bateau, Zébédée aussi. Il commence à être âgé, il ne va pas être éternel. C'est un vrai renard, il est rusé comme pas deux, et il faut l'être avec le poisson. Il connaît la mer mieux que personne, mais il est plutôt jeune. Et je me demande d'ailleurs si nos mauvaises prises de ces derniers temps, ce n'est pas un peu lié à un manque de lucidité de sa part. Nos compétiteurs ont l'air de continuer à sortir du poisson comme d'habitude, mais nous, c'est comme si on n'y arrivait plus. En gros, je réalise qu'il faut que je me prépare à devenir moi-même le leader de notre équipe, le nouveau Zébédée, celui qui décide où on va pêcher, quand on jette les filets, quand on les remonte, celui qui anticipe, celui qui donne les ordres, celui qui sait quoi faire dans toutes les situations, celui vers qui on se tourne en cas de coup dur. Et honnêtement, vu la situation ces dernières semaines, vu l'état du bateau, vu la difficulté de le rembourser, vu ces tempêtes qui nous tombent dessus sans prévenir au milieu de la nuit, je ne voudrais pas laisser ma chère Myriam devenir veuve trop tôt, ni mes enfants orphelins. Philippe, tout son équipage sont morts noyés dans une tempête il y a 2 ans. Et je n'ai pas envie d'être le prochain sur la liste. En résumé, je ne suis pas trop sûr d'être fait pour cette vie-là. Mais bon, vous me direz, je n'ai pas vraiment le choix. Les hommes de ma famille sont pêcheurs de père en fils depuis des générations. D'un autre côté, quelques nuits de travail couronnées de succès, quelques barils de marinade que nous pouvons exporter à bon prix, et puis la situation pourrait se rétablir. En fait, je pense que je suis prêt à faire face au danger si la récompense en vaut la peine. Mais risquer ma peau pour un filet vide, ça, non merci. J'en étais là dans mes réflexions quand, un petit peu par hasard, j'ai recommencé à écouter Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Waouh! Si Jésus pouvait lire mes pensées, il n'aurait pas pu choisir un meilleur sujet pour son enseignement. Décidément, ce rabbi-là ne ressemble à aucun autre. Il a continué. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne pensez surtout pas que je manque de respect envers Jésus. Parmi tous les rabbis que j'ai entendus, et on s'entend que j'ai eu l'occasion d'en entendre pas mal, celui-ci est de loin celui dont l'enseignement est le plus intéressant. Et en plus, il ne fait pas que parler, comme tant d'autres, il agit. Il a même guéri ma belle-mère, Anne. Qui sait d'ailleurs si elle serait encore parmi nous sans son intervention, qu'il faut bien qualifier de miraculeuse. Mais en même temps, dire « ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même », c'est un peu léger. C'est un peu facile à dire pour le rabbi qui emprunte ta barque aujourd'hui et demain, justement, ben, il ne sera plus là. J'aimerais bien le voir, ce Jésus de Nazareth, à travailler comme pêcheur sur la mer de Galilée, à passer des nuits sans sommeil, à jeter et remonter le filet encore et encore jusqu'à ce que ton dos et tes muscles soient douloureux, à faire ce travail parfois en pure perte, comme nous la nuit dernière, à passer la moitié de la journée à prendre soin de tes filets, avant de pouvoir enfin te reposer quelques heures, avant de recommencer la nuit suivante, et de vivre constamment avec ce souci, de ne pas déchirer tes filets, de ne pas savoir comment rembourser ton bateau, et de risquer ta peau si jamais il y a une tempête qui se déchaîne. Avec tout ça, Jésus avait terminé son enseignement et j'étais content qu'il en ait fini. On allait ramener le bateau sur le rivage, finir de ranger nos affaires, puis aller dormir. Et je me préparais à ramer en direction de la rive quand Jésus m'a donné cet ordre bizarre. « Avance, là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » De quoi il se mêle ce rabbi? Qu'il reste à son enseignement, éventuellement qu'il guérisse du monde. Je ne dis pas, c'est magnifique. Mais depuis quand les rabbis apprennent-ils leur métier aux pêcheurs professionnels? Si on n'avait rien pris pendant toute la nuit, en pêchant sous les ordres d'un vieux briscard comme Zébédée, c'est pas en eau profonde et en pleine journée qu'on allait attraper du poisson. Mon fils, 7 ans, le sait. Et en plus, nos filets étaient presque secs et j'avais pas du tout envie de les détremper à nouveau. Et en plus, Zébédée et ses gars étaient là, sans compter tous les collègues. Qu'est-ce qu'ils allaient penser en voyant Simon jeter ses filets en plein jour et en eau profonde? En même temps, une parole de Jésus a guéri Anne de sa fièvre. Et vu le trouble dans lequel on est, on ne risquait pas grand-chose à s'essayer. On allait bien voir si le lendemain prendrait soin de lui-même. Alors, j'ai répondu à Jésus. Puis je me suis assuré de parler assez fort pour que tout le monde entende que ce n'était pas mon idée à moi de jeter les filets. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et là, en plein jour, en eau profonde, là où mon fils de 7 ans sait qu'on ne peut rien attraper, nous avons fait la prise la plus incroyable que j'ai jamais vue. En fait, je suis sûr que c'est la prise la plus extraordinaire de l'histoire de la mer de Galilée. Comme si tous les poissons de la mer s'étaient donné rendez-vous pour se jeter dans mon filet. Les filets étaient en train de se déchirer à cause du poids des poissons dedans. On était incapable de remonter une telle prise. Il a fallu que Zébédée et ses gars remettent leur bateau à l'eau en catastrophe pour nous aider à embarquer une telle quantité de poissons. Nos barques s'enfonçaient dans l'eau tellement il y en avait. J'ai regardé vers Jésus et j'ai eu peur. Qui est cet homme qui dit un mot et la fièvre quitte une malade? Qui est cet homme qui peut voir jusqu'au fond de la mer et ordonner aux poissons de se jeter dans mes filets? Qui est cet homme qui enseigne comme s'il connaissait parfaitement le fond de mes pensées? Rien ne lui est caché. J'avais l'impression d'être totalement mis à nu. Sous son regard, je suis tombé à genoux devant lui. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et je voyais bien que les autres n'emmenaient pas large non plus. Jésus m'a regardé avec bonté et il m'a répondu « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Nous avons ramené tout notre poisson sur la rive en vitesse et on l'a laissé là. Que les autres se débrouillent avec. Les fils de Zébédée et moi, nous avons suivi Jésus. Il nous semble à tous les trois que suivre un tel homme est une opportunité bien meilleure que même la plus grosse prise de l'histoire de la mer de Galilée. On n'a aucune idée où ça va nous conduire, ni ce qui va nous arriver. D'ailleurs, que peut-il bien vouloir dire par pêcheur d'hommes? Peut-être que je me laisse une fois encore emporter par mon enthousiasme. Peut-être que je le regretterai amèrement dans quelque temps. L'avenir le dira. Mais une chose est sûre, je préfère suivre Jésus au risque d'être déçu plus tard que de ne pas le suivre et de passer le reste de ma vie à regretter d'avoir manqué une opportunité pareille. Allez, vous en savez autant que moi. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Moi, je m'en vais marcher à la suite de Jésus. Et si vous voulez nous rejoindre, je suis sûr qu'il y a encore une place pour chacun d'entre vous. Amen.